Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la partie culture de l'émission avec la chanteuse Élodie Frégé. Elle monte sur scène avec André Manoukian. Oui, quel duo. Pour raconter l'histoire de La Belle et la Bête. Pas du tout, c'est le nom de leur spectacle. Il faut juste deviner qui fait La Belle, qui fait La Bête. Et puis dans Les Indispensables, une série Kidding, c'est la saison 2 qui arrive avec Jim Carrey, rien que ça, et un livre, Le Village. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour.
Le journal de la culture avec vous. Madonna, reine de la pop et du retard.
Oui, ce week-end, c'était les premières dates de ses 12 concerts au Grand Rex. Madonna a commencé avec 3h30 de retard samedi, donc vers minuit. Et dimanche, seulement 2h de retard. C'est un peu mieux, donc vers 23h. Officiellement, c'était dû à un problème technique avec les décors. Mais Madonna et la ponctualité, ça n'est jamais une grande histoire d'amour. D'après elle, une reine n'est quand même jamais en retard, donc jamais d'excuses sur scène. Mais d'après les fans, ça valait le coup d'attendre pour ces shows exceptionnels et intimistes.
Et je pense à tous les fans qui pensaient rentrer en métro ou en bus et qui ont dû rentrer en taxi.
À 2h30.
Voilà. Un livre de Michel Houellebecq, et pas n'importe lequel, qui va être adapté au cinéma.
Oui, c'est Soumission, son roman polémique sorti le 7 janvier 2015, le jour des attentats de Charlie Hebdo. Alors pour ceux qui ne l'ont pas lu, l'histoire se passe dans un futur proche. Michel Houellebecq imagine une France marquée par l'arrivée à l'Élysée d'un président issu d'un parti politique musulman. Le tout raconté par un narrateur, François, un universitaire dépressif. Et ce personnage principal sera joué par Jean-Paul Rouve. C'est le seul nom que l'on connaît pour l'instant. Le casting est toujours en cours. À la réalisation, on retrouve Guillaume Niclou, qui connaît bien Michel Houellebecq, puisqu'il l'a déjà fait tourner plusieurs fois. Et ce tournage est prévu en septembre 2020.
Le mémorial d'Auschwitz en colère contre la nouvelle série d'Amazon Prime Video, Hunters.
Oui, cette série est sortie vendredi avec au casting Al Pacino. Il incarne le leader d'un groupe de chasseurs de nazis dans le New York des années 70 qui découvre des centaines de nazis réfugiés aux États-Unis.
Toutes mes condoléances pour ta grand-mère. On était dans les camps ensemble.
Elle a survécu à tout ça pour se faire abattre par un cambrioleur dans son salon. On aurait dit qu'elle le connaissait, on aurait dit que c'était...
personnel.
Ouais.
Ta grand-mère voulait te protéger.
De quoi ?
Des nazis, Jonas. De ces fichus nazis.
Alors dans la série, il y a des flashbacks dans les camps d'extermination et une scène a heurté le mémorial d'Auschwitz. Un officier nazi crée un jeu d'échecs géants avec des déportés en guise de pièces, donc à la place des tours, des pions, des cavaliers. Et ils sont envoyés à la mort chaque fois qu'une pièce est perdue. C'est une scène totalement imaginée pour la série, hein. Ça n'est fondé sur aucune réalité historique. Et c'est ça qui a provoqué la colère du mémorial, qui a tweeté « Inventer un faux jeu d'échecs humains pour Hunters est non seulement une stupidité dangereuse et une caricature, mais c'est aussi accueillir les futurs négationnistes. Nous honorons les victimes en préservant l'exactitude des faits. » Et ce n'est pas le seul reproche fait à Amazon. Deux jours plus tôt, le mémorial avait demandé aux géants américains de retirer de la vente des livres antisémites pour enfants. Écrit par Julius Streicher, c'est un auteur nazi exécuté après la guerre pour crimes contre l'humanité. Pour l'instant, Amazon n'a pas réagi.
Oui, on cite Amazon parce que c'est Amazon Prime, le service vidéo de la grande multinationale. Ben l'Oncle Soul, c'est de la musique, la chanson, annonce la sortie de son nouvel album le 27 mars.
Années se sont écoulées depuis le succès de cette chanson Soul Man et il est de retour, Ben l'Oncle Soul, mais sous un pseudo plus court, Ben. Alors en vérité, ça fait plusieurs mois qu'il a amorcé ce retour avec un EP sorti en novembre. Quelques titres seulement dont Angèle Châtelier, notre chroniqueuse musique, nous avait dit le plus grand bien. Cette fois-ci, c'est bien tout un album qui sort le 27 mars intitulé Addicted to You. Every time I'm falling, you're the one I'm calling. Everywhere I'm going, I know your eyes are on me. 11 titres dont les 3 de l'EP déjà dévoilés. À noter un duo avec le groupe marseillais I Am. L'album promet d'être un mélange de genres entre R&B et hip-hop, tendance jazz et pop avec des échos soul et reggae, rien que ça. Il est disponible en précommande.
Clint Eastwood prend position dans la campagne présidentielle américaine, mais pas pour soutenir Donald Trump.
Oui, il a décidé de lui tourner le dos. Il l'avait pourtant soutenu en 2016, mais le réalisateur américain a fait son choix et il s'oriente vers un autre candidat.
Pourquoi cette c'est musique
Michael. Bah, parce qu'il tourne le dos à Donald Trump.
Ah, ouais, d'accord, oui, mais c'est Sergio Leone, cette musique.
Oui, mais
c'est
pas Eastwood. Joue dedans.
Ah, oui, c'est vrai, c'est, ah, vrai, oui, c'est vrai. Il est dedans, il l'a pas mis en scène, c'est vrai.
C'est ça. C'est Michael Bloomberg, un des candidats à l'investiture démocrate que Clint Eastwood soutiendra, ancien maire de New York. Avant Trump en 2016, il avait soutenu Mitt Romney en 2012, un républicain lui aussi. Alors, qu'est-ce qui pousse Clint Eastwood côté démocrate cette fois-ci? Bien, la réponse se trouve dans une interview au Wall Street Journal. Le réalisateur a déclaré que Donald Trump devait agir de façon plus correcte, sans tweeter et insulter les gens. Il a également précisé que bien qu'il apprécie certaines réalisations du président Trump, il regrette les aspects désagréables de la vie politique américaine.
On revient en France, un documentaire sur l'homme pâle est disponible gratuitement sur YouTube depuis vendredi, intitulé « Regarde-moi ».
Alors que vous soyez fan ou si vous êtes totalement passé à côté de ce phénomène, pendant un peu moins d'une heure, vous allez approcher ce rappeur mélancolique atypique de 27 ans.
Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être.
Ce film parfois artisanal, hein, tourné avec les moyens du bord par un ami de l'homme pâle, Tim Rayson, retrace 3 ans de sa vie, des concerts sauvages pour promouvoir son premier album, jusqu'à l'Accord Hotel Arena qu'il a rempli en novembre après son second album. On le suit dans son intimité, chez sa mère, en tournée, en studio. On est vraiment dans les coulisses de la création de ses morceaux. Quelques témoignages de proches également. Un document rare dans la fabrique d'un artiste en pleine ascension. C'est à voir sur YouTube gratuitement. Et pendant ce temps-là, l'homme pâle prend quelques vacances avant de revenir avec un nouvel album. Il l'a promis.
L'hôtel des Invalides fête ses 350 ans.
Aujourd'hui même, hein, il a été fondé le 24 février 1670 par Louis XIV pour y loger et soigner les vétérans. Cet anniversaire, c'est l'occasion parfaite pour organiser de nombreux événements culturels, comme des visites guidées, hein, sur la vie des pensionnaires et la construction du bâtiment, des concerts exceptionnels en mars, un spectacle 3D la nuit, ça ce sera cet été, et puis un colloque, des expositions, toute une année de festivités.
Merci beaucoup Louise, à demain pour un nouveau journal de la culture.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, on est très heureux d'accueillir Élodie Frégé, Philippe.
Bonjour Élodie Frégé.
Bonjour à tous.
Qui est en train de mettre son casque, chanteuse, auteur, auteuse, compositeur, compositrice. Le grand public vous connaît pour votre victoire dans la Starac en 2003. Belle carrière depuis, très belle même, notamment un disque d'or, le jeu des 7 erreurs. Des 7 erreurs, pardon, il n'y a pas de S à 7. co-signé par Benjamin Biolay. Vous avez été juré dans La Nouvelle Star et c'est là que vous avez rencontré, si je suis bien informé, André Manoukian.
Totalement. Et on s'était rencontrés avant à la radio. J'avais eu la chance d'être présenté par lui dans une belle émission. Mais en vérité, on s'est vraiment rencontrés sur Nouvelle Star.
Et avec lui, vous proposez La Belle et la Bête, un spectacle avec Manoukian au piano, vous au chant. Ça sera, je vais donner les dates après, mais déjà, vous pouvez réserver pour la scène musicale. Ça sera le 18 mars, il y aura une tournée. Vous chantez tous les deux. Enfin plutôt,
oui,
vous chantez,
chante pas, hein.
Lui est au piano et vous chantez ce qu'on appelle des torch songs. Que sont les torch songs? Torch comme une torche, mais sans E à la fin. Qu'est-ce que c'est?
Torch, ouais. A torch song. Alors c'est un concept, André l'explique très bien sur scène d'ailleurs, parce qu'entre les chansons que je chante, André explique toute l'histoire du jazz et notamment l'histoire des torch songs. Une torch song, c'est une chanson d'amour cramé. Voilà, c'est un amour qui s'est cassé la gueule, qui ne brûle plus. Et pourtant, il y a un des deux sur les deux personnes du couple qui continue d'aimer l'autre, d'essayer de le récupérer et qui tient donc dans la nuit la torche de l'amour. De cet amour perdu, cramé.
Ne me quitte pas, c'est une torche song.
Exactement, ne me quitte pas, c'est une torche song. Faisons l'amour avant de nous dire adieu, c'est une torche song. Et puis, je ne sais pas si je peux en citer d'autres. En tout cas, j'en chante une quantité dans ce spectacle.
Moi, je peux en citer une qui a peut-être donné la naissance du genre. En tout cas, elle est emblématique. C'est Cry Me a River, qui a été reprise, j'ai regardé, mais par des centaines de gens, jusqu'à des groupes de hard rock.
C'est vrai?
Ouais, l'original, c'est une chanson écrite en 53. L'original remonte à 55. Celle qu'on connaît, c'est la version de Julie London.
Après.
Now you say you're sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you.
Je m'en lasserai jamais.
Je vous regardais et vous êtes émue comme si vous veniez de la réentendre pour la deuxième fois.
Déjà, je suis une très très grande admiratrice de Julie London. C'est une de mes références en matière d'interprétation de musique de femme. Et comme Rita Hayworth ou Marilyn Monroe, enfin toutes ces femmes-là, en fait, on a l'impression que qu'à l'époque c'était toujours des femmes un peu, comment dire, sous
la coupe des hommes,
oui. Et finalement, ces torch songs, elles ont été inventées par des femmes et interprétées magistralement par des femmes, avec toute la, je dirais, l'intensité et la vérité et la force qu'elle pouvait contenir, en fait. Donc, voilà, ça me touche.
Quel titre vous chantez ? Vous la chantez, celle-ci, avec Manoukian ?
Évidemment.
Dans La Belle et la Bête ?
Je la chante. Alors, c'est marrant que ce spectacle s'appelle La Belle et la Bête. Je ne sais pas qui a dit ça. Ça doit être un journaliste un jour. Mais je ne sais pas qui joue la bête et qui joue la belle.
Bon, c'est la blague la plus facile à faire.
Mais c'est facile, mais je pense qu'on devrait changer le nom du spectacle.
La bête et la belle ?
Je ne sais pas, la bête à bon Dieu. Non, mais je trouve que ça ne représente pas totalement le spectacle. Mais en tout cas, c'est l'histoire d'un pianiste qui tombe amoureux des chanteuses de jazz et qui a du mal à s'en remettre.
Ça, c'est la vie de Manoukian.
Il est
même amoureux des femmes, mais au-delà des femmes,
l'inspire.
C'est amoureux des voix. Il dit c'est les voix féminines.
Il dit en fait que même un chanteur est une chanteuse.
Ouais.
Voilà. Que ce soit une voix d'homme ou une voix de femme, le chanteur est aussi une chanteuse comme une autre.
Quel titre chantez-vous sur scène ?
Alors, Cry Me a River, Why Don't You Do Right, cette fameuse chanson qui a été reprise d'ailleurs dans le fameux dessin animé Qui veut la peau de Roger Rabbit,
ouais.
Avec la fameuse Jessica Rabbit.
Évidemment.
À laquelle
Et donc,
André,
femme fatale encore.
Oui, a tendance à me comparer. Fatale, oui, ouais. Effectivement. Et qu'est-ce qu'on reprend ? Diamonds are a girl's best friend. Non, il n'y a pas que des torch songs. Hein,
que des chanteuses américaines ? Ou il y a aussi des chansons en français ?
Il y a une chanson que j'ai choisie moi, parce qu'on a créé cette liste ensemble, que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Ce mortel ennui », qui a été écrite et composée par Serge Gainsbourg pour l'album « Du chant à la une », qui est, je pense, un de mes albums préférés de Gainsbourg. Et « Ce mortel ennui », c'est une très très belle description de ce qui se passe après les premiers émois d'un amour qui va bien, c'est-à-dire qu'on commence à s'ennuyer,
ouais.
Et il lui dit ce mortel ennui qui me suit quand je suis avec toi, elle est très très bien écrite et c'est plutôt une chanson cocasse,
ouais.
Voilà, donc il y a ce genre de chanson. Je chante aussi Jardin d'hiver, Henri Salvador, écrit et composé par Kerenan et Benjamin Biolay,
ouais.
Je chante ma chanson La Ceinture. Je chante aussi une chanson un peu plus, My Funny Valentine.
Ouais.
On chante deux chansons de Chet Baker, donc My Funny Valentine et
une autre.
Une autre que j'ai oubliée.
Vous allez la retrouver. On se prend un petit verre, vous allez retrouver la chanson.
Vin nature obligatoire.
C'est vrai, on n'est pas là pour faire de la pub. Consommer avec modération.
Non,
vin nature.
Nature, surtout, c'est pas une marque. Hein.
Surtout à 10h21, Élodie Frégé.
Ah oui, non, je ne bois jamais avant 18h.
Voilà qui est dit. Élodie Frégé est l'invitée de Culture Média. On continue à faire le tour de son actualité dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Élodie Frégé est notre invitée. Elle monte sur scène avec André Manoukian pour une joute musicale, La Belle et la Bête, ou l'histoire d'un pianiste victime d'un sortilège amoureux condamné à accompagner l'inaccessible chanteuse.
The French are glad to die for love. They delight.
On était presque sur TikTok parce qu'Élodie Frégé était en train de mimer Marilyn.
Oui, alors tu ne crois pas si bien dire, tu sais que je joue Marilyn Monroe au théâtre depuis un petit moment,
oui.
Dans une pièce qui s'appelle Norma Jean Monroe.
Ouais.
Et on va reprendre à Paris, soit en septembre, soit en janvier, dans un théâtre parisien pour eux. J'espère un maximum de dates, c'est magnifique, avec Stéphanie Hillel.
Alors ça, évidemment, c'est Marilyn Monroe, mais comment est né votre projet avec André Manoukian, La Belle et la Bête ? Qui a décidé l'eau de... Comment s'est passée votre histoire ?
Alors ça s'est passé très simplement, on s'est rencontrés sur Nouvelle Star, on était une bande de musiciens, puisque j'opérais auprès d'André, ouais. De Sinclair et de Yarol Poupeau.
Non mais faites-la moi courte, comment vous êtes venu à faire ce projet ? Comment vous êtes venu à faire ce projet ? C'est lui qui vous a dit qu'il faut qu'on bosse ensemble ?
On a enregistré Fever ensemble,
ouais.
Pour rigoler.
Ah oui,
qui
avec
est
tout
la
le
chanson
monde.
Qui fait transpirer de la moustache André Manoukian, comme tout le monde le sait.
Exactement.
Et il a adoré m'entendre chanter du jazz. Il m'a dit « Ah, faut que tu viennes chanter avec moi sur scène. Tu sais, j'ai un projet avec des chanteuses.
Ouais. »
Voilà, on chante des torchons et des chansons des années 40, 50, 60. Et quand on veut, vas-y. On se fait une setlist ensemble et on fait ça. Et puis, quelques mois après, on a fait ça. On a répété, on a trouvé notre style et voilà, c'était parti.
Il fait des blagues entre les morceaux. Il chante pas, lui.
Alors, des blagues, parfois, oui. Ouais. Il ne chante pas. Il se trémousse, il met les doigts dans son piano. Sa libido aussi dans son piano, c'est ce qu'il raconte pendant le spectacle. Ça fait mal.
Ouais. Et mais il avait aussi un spectacle qui s'appelait Le Chant du Périnée, je
alors,
me souviens.
Oui, donc on c'est arrivé après, d'ailleurs. Ouais. Parce que je pense que Le Chant du Périnée est né suite à ses concerts avec des chanteuses de jazz. Donc, ça se passe au Théâtre de l'œuvre, d'ailleurs, et c'est très bien, chez mon ami François-Xavier de Maison.
Vous pourriez
et
faire
c'est
un
magnifique. Oui, je fais la pub aussi d'André Manoukian.
Voilà. Vous pourriez faire un album.
On rêve. Alors moi, je rêve de faire cet album, de sortir un objet, un vinyle, de faire un clip filmé en Super 8, je sais pas.
Ouais.
J'ai très envie de faire ce disque avec André et lui aussi. Il faut juste qu'on trouve le temps, la maison de disques qui aura envie de nous produire. Et puis voilà quoi.
Et le producteur. Il y a la ceinture.
La ceinture, je la chante sur scène, en
exactement.
Effet. Piano-voix, version inédite.
Là, c'est notre version, on va se faire plaisir. On va entendre quelques notes de La Ceinture. C'est signé Benjamin Biolay. Évidemment, c'est vous, Élodie Frégé, au micro.
Merci.
Même pas sur la bouche, même sous la douche, même si c'est dur, je te mordrai, c'est promis. Tous les coups sont permis. Non, pas sur les lèvres, même pas en rêve, à 100%. Où tu mangeras ton pain gris. Mon cœur est endurci. Ne tire pas sur l'ambulance. Garde la potence. Plus rien n'a plus d'importance. Rien ne dure au-dessus de la ceinture.
Donc évidemment, sur scène, les guitares acoustiques ont été remplacées par Manoukian et son piano.
Un peu plus jazzy, un peu plus smooth.
Ouais.
Bon, je chante cette chanson assise au bord de la scène, les yeux dans le cœur du public.
Les yeux dans le cœur, c'est joli. La Belle à la Bête.
C'est une vraie torche-song, cette chanson.
Avec André Manoukian, vous au chant, vous serez à la scène musicale le 18 mars, vous serez à Privas le 13 mars à Tréguier, le 4 avril à Vittel, le 25 encore à Florange, le 28 avril, on va pas tout citer, oui. On peut aller voir sur internet. Vous êtes à l'heure en général sur scène?
Alors comme Marilyn Monroe, j'ai tendance à arriver très en retard.
Tout combien? Parce que Madonna, elle a fait 3h30 de retard.
Ah oui, je sais, j'ai entendu parler de ça.
Voilà, ouais. Donc vous, c'est combien le retard?
Moi, je suis pas Madonna, hein. C'est ça le problème. Bon, en général, j'ai un petit quart d'heure de retard, mais André est extrêmement bavard sur scène et j'ai remarqué que...
En fait, personne ne remarque que vous êtes en retard.
Personne ne remarque puisque André ne cesse d'allonger son temps de parole au début du spectacle. Mais les gens adorent. Hein.
Mais oui.
Puis comme ça, moi, ça me fait un beau tremplin. Ouais. Je suis contente.
Où en est votre phobie des araignées?
N'en parlons pas. Non, mais j'ai des araignées au plafond, moi, c'est... Non mais j'ai toujours eu peur, et j'ai même appelé un ami il n'y a pas longtemps qui habite à côté de chez moi à 4h du matin parce que je voyais une araignée sur une poutre et je lui ai dit je suis désolée, est-ce que tu peux venir tuer cette araignée? Bon, il est homosexuel, il n'y avait aucun risque qu'il prenne ça pour une invitation.
Ouais. Et il est venu.
Il est venu, il m'a insulté, il est venu, il a tué cette araignée. Malheureusement, je sais qu'il ne faut pas les tuer, je sais.
Mais vous n'êtes même pas capable vous-même de le faire?
Ah, je suis incapable.
Je veux dire le sens de ma question, parce que je ne parlerai pas des araignées comme ça gratuitement. Vous avez raconté quand vous étiez en tournée à l'étranger avec Nouvelle Vague,
oui.
Vous vous renseignez en fonction du pays, du type d'araignée qu'on pouvait trouver dans le pays en question.
Oui, d'ailleurs, je ne suis pas allée avec eux en Australie, là, et je m'en porte très bien. Parce qu'en Australie, il y a quand même
Il y a la mygale australienne.
Voilà, et puis il y a des pluies d'araignées qui nous tombent dessus. Oula,
Koh-Lanta. C'est le générique de Koh-Lanta.
Oui, bah je. Voilà, Fort Boyard, Koh-Lanta, c'est pas pour moi.
Ouais, vous pouvez pas faire Koh-Lanta pieds nus.
Hein. Absolument pas.
Vous restez avec nous, Élodie Frégé?
Évidemment.
Il y a un service qui est passé ce matin, il n'y a aucune araignée dans ce studio.
Merci beaucoup.
Et avec notre invité Élodie Frégé, dans un instant, on découvrira nos indispensables du jour. Nicolas Caro nous parlera du roman de Virginie Delage, Le Village. On reste sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
C'est l'heure, Philippe, de nos indispensables du jour. Dans un instant, on va découvrir une série avec Clémence Olivier, une série avec Jim Carrey. On va parler d'un roman, Le Village, avec Nicolas Caro, tout ça avec notre invitée, Élodie Frégé, qui, elle, va monter sur scène avec André Manoukian pour une joute musicale qui s'appelle La Belle et la Bête.
Oui, ça sera, on va donner cette date, ce sera la scène musicale, c'est juste à côté de Paris, une salle absolument somptueuse, ça sera le 18 mars, et évidemment une tournée dans toute la France. On vous a vu, j'en parlais, en tournée avec Nouvelle Vague. On sait que vous êtes hyper active, vous n'arrêtez pas de travailler, vous n'êtes jamais en vacances. Vous, sur quoi vous travaillez en parallèle?
En parallèle de quoi?
De ce que vous êtes en train de faire maintenant.
Ah oui,
vous avez des projets, j'ai l'impression que vous êtes toujours un coup d'avance. Il y a tout le temps un projet d'avance.
Ouais, mais alors le problème, c'est que je me noie dans un verre d'eau. Alors en ce moment, c'est l'ouragan, quoi.
Ouais.
Donc entre les spectacles avec André Manoukian, la tournée des 15 ans avec Nouvelle Vague, avec qui je tourne depuis 7 ans.
Ah, parce que ça continue.
Oui, ça
Nouvelle
continue.
Vague. Ah, super,
Nouvelle Vague ne
pas.
S'arrête jamais.
Ouais.
C'est une surprise pour tout le monde depuis que ça a été créé.
Ça, je le savais, mais je pensais qu'ils changeaient parfois les chanteuses
oui,
qui étaient avec elles. J'explique
parfois,
ce qu'est Nouvelle Vague.
Certaines tombent enceintes ou meurent, et puis on a. Non, je plaisante. Oh mon Dieu, l'enfer. Heureusement qu'il n'y en a aucune qui est morte.
Non, mais surtout...
Enfin, je crois. Non,
mais c'est pas grave, parce qu'elle ne peut plus nous écouter.
Ah oui, voilà.
On vexe personne.
Je suis désolée.
Voilà, non, voilà. On vexe personne quand on dit ça. Non, mais il faut expliquer ce qu'est Nouvelle Vague. C'est Marc Collin qui reprend des tubes des années 80, notamment
Libo.
De New Wave. Ouais. Et il les joue en mode bossa nova. Et,
oui, parce que bossa nova, ça veut dire en portugais New Wave et donc Nouvelle Vague. Voilà. C'est tout un concept. À la base, c'est un concept, mais c'est devenu un groupe qui tourne dans le monde entier.
Et qui continue. Et ils changent. Eux deux sont à la base de la chose.
Oui.
Et ils changent. Je me souviens qu'il y avait un moment de la chanteuse Camille, par
Camille
exemple.
Camille a commencé avec Mélanie Pain, Phoebe Kildare, Elena Noguera, Lisette Aléa, moi-même, par le plus grand des hasards. Non, c'est parce que j'ai fait un disque avec Marc Collin, mon dernier disque.
Voilà, mais vous continuez à tourner avec Nouvelle Vague.
Oui, et je prépare mon 5e album. Ça fait 1000 ans, mais c'est pas grave.
Il en est où d'ailleurs, ce 5e album?
J'y suis presque. En
parce
fait, je cherche
trouvé,
mon son.
J'ai trouvé des papiers anciens et je me dis, je vais pas lui poser la question parce que peut-être c'est annulé. Vous savez, c'est comme quand on est avec une histoire d'amour et vous êtes plus avec le
j'annule
gars.
Tout.
Donc là, ouais.
Ouais, ça m'arrive souvent.
Ouais.
Mais bon, c'est pas grave. Tous les deux, trois
et
ans.
Là, vous en êtes où alors, cet album?
Alors là, j'ai presque toutes mes chansons. J'aimerais ajouter quelques collaborations qui sont là en ce moment.
Ouais.
En ce moment, on cherche mon son.
Vous avez la maison de disque ou pas encore?
J'ai pas ma maison de disque. On s'est séparés à l'amiable avec une maison de disque avec laquelle j'étais mariée pendant 15
ans. Parce que je dis ça à Benjamin Biolay, qui vient de sortir un nouvel album, va sortir un nouvel album.
Ouais.
Et il vient de donner la date, ça sera en juin. Et on vient d'apprendre qu'il avait changé de maison de disque. Et il est passé chez Polydor. Donc peut-être vous pouvez lui passer un petit coup de fil, vous ne saviez pas?
Polydor, c'est chez Universal. Donc je pense que je ne vais pas me remarier avec eux d'ici un petit moment, mais on ne sait jamais. Hein.
D'accord, moi je suis pour la paix des ménages, on va changer de sujet.
Ouais, on s'entend bien, mais je crois que je n'étais pas.
Grande lectrice, petite lectrice?
Alors je trouve que je ne lis pas assez, mais je suis plutôt du côté des lecteurs en effet.
Grand lecteur, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
De quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Deux bonnes histoires, celle du roman que vous nous présentez, et c'est comme dans l'histoire d'Élodie Frégé et d'André Manoukian, il y a aussi l'histoire de sa fabrication, l'histoire dans l'histoire.
C'est ça, je vous raconte les deux. L'année dernière, j'ai fait partie du jury du concours de nouvelles dauphéminin.com organisé avec l'éditeur Michel Lafon. La récompense, c'est pas de l'argent ou un déjeuner ou je sais pas quoi, c'est beaucoup mieux, c'est un contrat d'édition pour un roman chez Michel Lafon. Dit comme ça, c'est sympathique, mais quand j'ai reçu à Europe 1 le roman de l'auteur Virginie Delage qui habite Bordeaux et qu'on a récompensé l'année dernière, j'ai trouvé ça vraiment drôlement chouette.
Et alors, est-ce que vous-même, vous aviez voté pour sa nouvelle? J'imagine
ah bah
que...
Oui, bah oui, si
ah bah non, ça aurait pu être
j'en aurais même pas parlé. C'était une nouvelle très très intrigante avec une fin terrible comme pour toute bonne nouvelle. Elle a donc gagné le droit d'éditer un roman. Encore fallait-il en avoir un. Elle a dû se mettre au travail et Virginie Delage nous raconte comment ça s'est passé.
J'avais en fait depuis quelques temps des sujets sur lesquels j'avais envie d'écrire. Après, j'avais pas une idée en particulier d'histoire. J'ai rencontré d'abord un directeur d'édition chez Michel Lafon, avec qui j'ai pu discuter un peu des thèmes que j'avais envie d'aborder, des sujets. Ils m'ont laissé assez libre, mais en même temps, ils ont été là pile au moment où j'avais besoin. Ils ont su me donner les bons conseils, donc ils m'ont aiguillé sur l'écriture d'un synopsis d'abord, ensuite sur un découpage, et puis sur la rédaction. Et une fois que le manuscrit a été rédigé, là, j'ai travaillé avec la directrice littéraire de la maison Michel Lafon, qui est une personne incroyable. Donc on a retravaillé le texte jusqu'au manuscrit final qui a été fini en septembre.
Alors donc voici le roman signé Virginie Delage, c'est chez Michel Lafon. Donc Le Village, qu'est-ce que ça raconte, Nicolas?
La première scène, c'est un homme assis sur une plage, manifestement très en colère, et il est décidé à commettre un crime, un meurtre. Et sa cible, il l'a aperçu quelques heures plus tôt chez Harold, le bar, le café du village. Au passage, le patron a appelé son bar comme ça en hommage à la série Happy Days.
Mais c'est pas chez Harold dans Happy Days, c'est chez Arnold.
Absolument, le patron du bar s'est planté. Oui. Mais bon, une fois que l'enseigne est installée, bref,
ça
le
coûte
narrateur.
Trop cher à la refaire.
Exactement. Le narrateur, sa femme lui avait dit pourtant, c'est chez Arnold, c'est pas chez Harold. Bon, bref,
le narrateur
a donc croisé le regard de quelqu'un. Il a été secoué par ce moment. Des souvenirs, des angoisses sont remontées et il décide donc de tuer.
Et on ne sait pas pourquoi.
Évidemment non, il faut lire pour savoir. C'est toute
c'est
l'idée du roman,
dit.
C'est un thriller. On suit donc ce type qui arpente ce village. Un village qu'il avait manifestement quitté et qu'il retrouve. Le village avec tout ce que ça comporte de cancan, de vieilles rancœurs, bref, de communauté. C'est ça ce que voulait explorer Virginie Delage.
Finalement, moi, le village, en fait, c'était plus la symbolique du groupe ou de la communauté. C'est ces communautés-là qu'on retrouve, qu'on vive dans un village. Mais même en ville, maintenant, on fait partie, malgré nous, un peu de groupes, de communautés, que ce soit même dès l'école, en fait, à l'école, ensuite en entreprise, dans le monde du travail. Aujourd'hui, on a enfin, les groupes d'amis, on a l'entourage familial. Puis même sur les réseaux sociaux, on fait partie de communautés. Et en fait, bah, finalement, on trouve un peu toujours les mêmes rapports, je trouve, dans ces groupes-là. Après, il y a des affinités qui se créent dans ces groupes, des amitiés, il y a des relations amicales, amoureuses. Il y a aussi des jalousies, il y a des rapports un peu de dominants et dominés. Et je trouvais que le village, enfin un village en tous les cas, c'était un bon moyen de porter justement toutes ces relations qui se jouent au sein des communautés, mais qu'on peut retrouver effectivement en ville, un peu partout.
Voilà, parallèlement, on suit en alternance la vie d'un autre personnage. Rien à voir, il travaille dans une sorte de start-up, il s'occupe du numérique. Évidemment, les deux histoires se rejoindront.
Et alors, comment s'est passée la sortie du livre ?
Eh bien, très bien. Et ça lui a fait une drôle d'impression, Virginie, d'avoir son livre à elle dans les mains. C'est toujours émouvant, un premier livre. Et elle a eu le réflexe très commun et très compréhensible dans ces cas-là.
Elle s'est bourrée la gueule.
On l'a tous fait, non, vous allez voir.
Le jour de la sortie, je suis tout de suite allée voir dans les librairies du centre-ville. J'y suis même allée trop tôt parce que je l'ai vu, il était encore dans les bacs en train d'être mis en rayon. Je commence à avoir des retours. Voilà, c'est une aventure un peu dingue hein, pour moi parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Pour l'instant, j'ai plutôt des bons retours, donc je suis assez contente. Après, je continue ma vie normalement parce qu'il faut bien aussi continuer à travailler, s'occuper des enfants.
Voilà, donc il y a les libraires, maintenant il manque plus que les lecteurs. Voilà, le village donc de Virginie Delage, c'est chez Michel Lafond.
Et elle a déjà signé pour le deuxième, figurez-vous.
Et puis vous m'avez dit, Nicolas, vous voulez attirer notre attention sur un festival littéraire qui va démarrer jeudi. Et
c'est le festival Effraction au Centre Pompidou à Paris. C'est la première édition, un festival consacré aux littératures du réel, avec des entretiens, Régis Geoffrey, Maëlys de Kerangal ou Laurent Binet, des lectures musicales, etc. C'est jusqu'à dimanche.
Ouais. Juste un mot, c'est quoi la littérature du réel ?
C'est quand le réel surgit du roman.
D'accord.
Et que les deux se mélangent.
D'accord.
Et qu'on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux.
D'accord. Un petit peu comme de l'autofiction, mais avec les histoires.
Exactement.
D'accord, j'ai bien compris. Et dimanche, c'est également le jour de votre émission, Nicolas.
Oui, j'irai visiter la bibliothèque de Raphaël Antoven, notamment. Il y a du boulot.
Ouais, il y en a beaucoup surtout.
Ah oui, il y en a beaucoup. Puis c'est classé de A à Z. Il y a des milliers de livres classés de A à Z. J'ai jamais vu ça.
Avec l'auteur ou avec le titre ?
Avec.
Tout Camus ensemble ?
Alors ça dépend, justement.
Oh là là, c'est compliqué.
Parfois c'est l'auteur, parfois c'est le titre, mais pour de très bonnes raisons.
Voilà, c'est classé comment dans votre tête ?
C'est pas classé, moi.
Élodie Frégé, c'est classé comment dans votre tête ?
Absolument, j'ai rien qui se classe, moi, j'ai aucune classe.
Ouais. Mais si, vous avez de la classe.
J'ai
vous
de
lisez
classe,
quoi en ce moment ?
Je ne classe rien.
Vous me dites, vous êtes une grande lectrice, vous aimeriez lire davantage, vous lisez quoi en ce moment ?
C'est bien en tournée, on peut lire beaucoup dans les transports. Je viens de finir un profil de perdu de Sagan, que je n'avais jamais lu.
Qui est le vrai faux Sagan, c'est ça ? Ou c'est un autre Sagan ?
Non, c'est un autre.
C'est pas le vrai faux Sagan qui a fait scandale, c'est un vrai Sagan, un vrai de vrai.
Le vrai faux, c'est un vrai.
Ouais.
Mais là,
il y a une polémique là-dessus, c'est un autre débat.
En fait, un ami cher vient de m'offrir un livre magnifique que j'avais jamais lu, je ne sais pas pourquoi, qui s'appelle L'art de la joie, de cette femme qui s'appelle Giuliana Sapienza, un truc comme ça.
Oui.
J'ai du mal à le prononcer.
C'est cette italienne là.
Voilà, le personnage s'appelle Modesta, elle est née en 1900, c'est une femme libre, indépendante, sensuelle, intelligente. Je ne sais pas pourquoi cette personne m'a offert ce livre.
Ça me plaît énormément.
Est-ce que c'est la même personne qui vient chez vous à 4h du mat pour tuer des araignées ?
Non.
C'est pas la même personne. L'art de la joie, c'est vraiment un chef-d'œuvre.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Élodie Frégé, l'invité de Culture Média. On va revenir, Philippe, à son actualité dans un tout petit instant. Juste avant, on va parler d'une série avec Clémence Olivier, la série Killing.
Oui, bah, vous nous avez tout dit.
J'ai tout dit. Merci.
Bonjour Clémence Olivier.
Bonjour.
Killing, alors qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, Killing, littéralement, ça veut dire plaisanter, blaguer.
Oui, ça vient de kid.
Ouais,
faire l'enfant,
exactement.
I'm not kidding.
Tout à fait, merci pour la définition, Philippe. Et celui qui fait des blagues dans la série, c'est pas n'importe qui, c'est le pro de la grimace et de la contorsion, c'est Jim Carrey, qui s'était fait plutôt discret ces dernières années.
Ah, je l'aime.
Voilà, dans Kidding, il fait son retour en jouant l'animateur d'une émission pour enfants, Mr. Pickles.
Alors Pickles, ça veut dire, non j'en sais rien, il est comment alors ce Mr. Pickles ?
Eh bien c'est un homme gentil et bienveillant,
ouais, c'est ce que j'ai dit.
Non mais on s'en foutait, c'était une blague, lui, monsieur premier degré.
Lui il est gentil comme un cornichon. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais bref, il est bienveillant. C'est un personnage un peu entre Casimir et Jacques Martin.
Ouais.
En fait, le personnage s'inspire de Fred Rogers, qui est un Américain qui a présenté durant plus de 30 ans Mr. Rogers' Neighborhood, qui est une très célèbre émission pour enfants. Et comme lui, Mr. Pickles apprend chaque jour aux petits à mieux comprendre le monde qui les entoure. Et sur le plateau télé, un décor en carton-pâte, eh bien, il est toujours accompagné de marionnettes qui parlent.
Je peux savoir ce que tu fais, ennui le triste ?
Oh, avec ma langue en camembert, j'arrive même pas à siffler. Oh, quel fromage !
Ennui, croisant mon expérience, chacun de nous a une petite musique dans le cœur. Et si tu tends bien l'oreille, je suis certain que tu vas l'entendre.
Bon alors sur les plateaux télé il est comme ça, mais dans la vie, Jeff Pickles c'est aussi quelqu'un de vraiment sympa et qui prend soin des gens. Sauf que depuis quelques temps, son quotidien, c'est pas franchement la fête. L'un de ses fils est mort, il s'en remet pas, sa femme l'a quitté et lui a trouvé un remplaçant. Et son autre fils, eh ben, il voit son père comme un gros loser.
Écoute, ta maman et moi, elle ne veut pas que je vive à la maison pendant son processus de deuil émotionnel. Et je respecte ça.
Et t'as pas quitté parce que Phil est mort. Elle t'a quitté parce que t'as pas de couilles.
Bon. Bon alors, un peu raide. Bon forcément, Jeff, il est au bout du rouleau. Et ce qui devait arriver arriva, il va complètement péter les plombs.
Mais si je comprends bien Clémence, Jim Carrey joue en fait un rôle plutôt même carrément sombre.
Oui, et d'ailleurs, c'est pas très étonnant parce que derrière la caméra, on retrouve un certain Michel Gondry. Et
ah bon pas,
ah oui.
Oui.
Oh là là, mais c'est pour moi cette série.
Le français,
le réalisateur français. Et donc, a priori, vous vous en souvenez, Jim Carrey et lui avaient travaillé ensemble. C'était en 2004 sur le magnifique et barré Eternal Sunshine of The Spotless Mind.
Ah, j'avais complètement oublié ce film.
Un de mes films préférés.
Et bien avec Keating, il plonge une nouvelle fois l'acteur dans un univers très particulier, parce que cette série, c'est ni un drame, ni une comédie. C'est une fiction assez foutraque, un joyeux bordel, avec des moments très poignants, mais aussi pas mal de cynisme et d'humour. Comme quand le producteur de l'émission découvre que Jeff s'est rasé une partie de la tête.
Tu as la tête d'un type qui est sur le point de grimper en haut d'une tour et de mitrailler tout le monde.
C'est pas ça.
On croirait le petit frère hyperactif de Lee Harvey Oswald. Les chaînes locales nous diffusent dans le désordre. Tu ne crois pas que les enfants seront un peu déboussolés de voir qu'un jour, Jeff Pickles a tous ses cheveux et que le lendemain matin, il a une piste d'atterrissage en guise de raie au milieu?
Alors, qu'est-ce qui vous a plu au final dans cette série? Parce que déjà là, c'est très très tentant.
Bah, déjà, Jim Carrey est génial. Hein. Ici, comme je vous disais, c'est pas seulement le clown de The Mask ou de Ace Ventura, c'est aussi un clown triste. Et moi, je trouve que c'est vraiment dans ses rôles dramatiques qu'il est le meilleur. Et puis la série, elle a un autre intérêt, c'est de nous montrer les coulisses du show business. En gros, elle nous dit que n'importe quelle émission, et même une émission pour enfants, eh bien c'est une machine à cash avec ses produits dérivés, ses millions de dollars à la clé. Alors pas question que les problèmes personnels de l'animateur viennent tout chambouler. Enfin, Keating m'a plu, malgré quand même quelques longueurs, parce qu'elle aborde des questions très sensibles et qui nous touchent tous. Comment surmonter un deuil? Comment se relever après une déception amoureuse? Comment sortir de l'enfance? Ces sujets, ils sont traités sans tabou, mais surtout avec beaucoup de poésie.
Pourquoi ça vous fait sourire?
On revient aux torchons, évidemment.
Mais oui, les torchons, c'est les chansons d'après une déception amoureuse. Où est-ce qu'on peut voir pour Elodie? Ça a l'air de vous tenter, Elodie.
Ça me tente énormément.
Ça passe où, cette série?
Ça passe sur Canal+, et sur le site de VOD MyCanal. Il y a deux saisons pour le moment.
Faut que je m'abonne alors.
Ah oui, faut être abonné. Ne faites pas cette tête. C'est de moins en moins cher. Vous savez qu'on peut s'abonner à Canal+, qu'on est aussi une émission média, donc je vous le raconte.
Ah,
sans passer par tout le Canal+ à 39 euros, vous pouvez vous abonner juste pour voir les séries. Vous n'êtes pas obligé de regarder le foot et de payer pour le foot. Voilà. Non, mais c'est vrai, il faut le dire.
Merci, d'accord. Merci pour le filon.
Vraiment, on peut totalement s'abonner. Il y a un abonnement. Ils avaient créé ça. Il y a Maxime Sada, il appelait ça la bombe anti-Netflix. Je ne sais pas si c'est une bombe, en tout cas, c'est anti-Netflix. Vous regardez quoi en ce moment comme série, tant que vous en regardiez?
Pareil, j'ai pas énormément le temps de regarder, mais j'ai bouffé Stranger Things. Ah si, je suis sur Peaky Blinders, la dernière saison.
D'accord.
Voilà, mais je regarde aussi des séries françaises, Baron Noir, on retrouve mon excellent ami Alain Bouzigue, et 10% que j'adore.
Et c'est piraté chez vous?
Piraté?
Non, parce que Baron Noir, ça passe sur Canal+, comment vous faites?
Ah non, j'ai regardé en replay. Non, je crois que j'avais un abonnement à un moment, on m'avait offert.
D'accord, bon, on veut rien savoir en tout cas.
C'est vrai.
Si vous arrivez à voir Baron Noir, vous arrivez à voir la série avec Jim Carrey,
oui,
dont le nom est
Killing.
Merci beaucoup, Clémence.
C'est la dernière à savoir.
La dernière partie de Culture Média, c'est dans un instant avec notre invité Elodie Frégé sur Europe 1.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
C'est la dernière partie de Culture Média avec nous dans ce studio, Clémence Olivier, Nicolas Carreau qui sont restés, et puis notre invité Elodie Frégé qui monte sur scène avec André Manoukian pour une joute musicale, ça s'appelle La Belle et la Bête.
Ça sera à la scène musicale le 18 mars et il y a une tournée. Vous écoutez quoi comme musique sinon quand vous ne travaillez pas? C'est quoi vos goûts? Ça va de quoi à quoi?
Oh là là, à force de bosser avec Nouvelle Vague et André Manoukian, j'écoute de plus en plus de pop, punk, new wave des années 80 et de torch songs, ce qui fait un mélange assez fou. Qu'est-ce que j'ai écouté dernièrement qui m'a renversé?
Je veux dire le sens de ma question, c'est qu'en fait après votre victoire dans la Star Academy, vous avez été embarqué dans l'univers variété. Et c'était pas votre monde, la variété. Comment vous avez vécu ça et comment vous en êtes débarrassé et comment vous êtes épousté de cette musique-là qu'on essayait de vous coller à la peau?
Mais ça m'a vachement aidé en fait de faire cette émission parce que je me suis rendu compte que c'est pas du tout ça que j'avais envie de faire.
Ah oui, c'est drôle.
Oui, non mais c'est fou. Je pense qu'avant la Starac, j'écoutais Portishead, machin, Goldfrapp, ça c'est vraiment mes bases, Radiohead, tout ça, en français. Et puis Gainsbourg, Brassens, Barbara, parce que mes parents. Mais j'avais pas exploré assez de choses et puis c'est vrai que quand t'habites à la campagne, t'écoutes la radio et on va te passer de la variété de basse, quoi. Mmh. Donc j'étais un peu éduquée, simplement.
Ouais.
Et le fait de faire cette émission m'a plongée dans une recherche de quoi, t'as envie de quoi, t'as envie d'écouter quoi, t'as envie de faire quoi, quels sons t'as envie d'entendre. Donc là, je vous donne le nom de quelqu'un que je viens de découvrir, que peut-être vous connaissez. C'est une femme qui s'appelle Elijane Fields.
Et Elijane Fields, comme les Champs-Élysées.
Ouais, c'est sublime.
Mais c'est des années 90, ça. Moi, j'écoutais ça, ils en parlaient dans les Un Rock, quand c'était encore un mensuel.
Je ne connaissais pas ça.
Je crois même que c'est un
groupe.
J'en ai chialé.
C'est
la traduction littérale, mais c'est juste magnifique. Je suis absolument d'accord. C'est vraiment génial.
Voilà. Et sinon, j'écoute évidemment beaucoup de... Oui, beaucoup de torchons, beaucoup de... Et beaucoup de New Wave en ce moment.
Mais ce qui est très étonnant chez vous, c'est que vous êtes complètement inattendu. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce que vous allez faire. Vous avez posé lui...
Je crois même que mes parents ne m'attendaient pas.
C'est vrai.
Non, je plaisante.
Non, en plus, vous pourrez même faire une carrière d'humoriste. Non.
Oui, mais non, en fait.
Non, c'est quand même une très bonne punchline, celle-ci. Vous avez fait une interview avec Bec Bédé dans Lui, en posant nu. Pourquoi vous avez dit oui?
Oui, alors j'étais pas nue pendant l'interview.
Non, mais ça, je m'en doute un peu. Mais...
Pourquoi j'ai dit oui?
Ouais.
En fait, j'ai l'impression que mon moteur, c'est la peur. C'est, ouais, je doute énormément, j'ai peur de tout, j'ai peur des gens, j'ai confiance en personne, surtout pas en moi, à la base, mais je m'entraîne, hein, je me soigne. Et j'ai l'impression que tout ce qui me fait peur, tout ce qui me provoque un frisson, le fait de monter sur scène déjà, de me retrouver sur scène devant des gens, et de chanter des choses que j'ai écrites et composées, et de me dire je vais mourir, c'est pour moi le plaisir ultime, quoi.
Et donc les photos nues?
Bah c'était une peur aussi, j'aime pas tellement être nue, j'aime pas me mettre en maillot de bain sur la plage. Et puis j'avais très envie de faire cette interview avec Frédéric, que je trouve brillant. Et puis je me disais, si tu le fais c'est maintenant, parce qu'après ce sera trop tard.
Moi j'adore ce que vous racontez dans les interviews. C'est quoi votre premier geste beauté du matin? Vous vous souvenez de ce que vous avez dit à l'Express?
Non, je ne me souviens pas. Ça dépend de ce que j'ai bu la veille, non?
Ouais, non, non, pas du tout. Ils vous ont posé la question et vous avez répondu, je me lève et je fais pipi. Et je me suis dit, mais comment on peut dire ça à l'Express?
Bah, avec toute la tisane que je bois, c'est un geste beauté, la tisane. Il faut se drainer, il faut boire des plantes. Il faut, ouais.
Et j'ai lu aussi, et vous avez dit que vous aimeriez bien être œnologue. Vous en êtes où sur ce terrain-là?
Alors, je n'ai pas encore eu le temps d'explorer énormément, mais en revanche, je m'intéresse de plus en plus aux vins qui sont fabriqués en biodynamie et des vins nature. Et je vous conseille une application qui s'appelle Raisin, je fais de la pub, sur laquelle on peut retrouver les caves, les endroits où on peut acheter des vins cultivés de façon bio ou nature et qui vendent des très très bons vins cultivés dans le respect de la nature et de l'être humain.
Voilà, je vais donner deux autres dates qu'on vient de me donner. Privas, je l'avais donné, et Breuillet, le 10 mars.
Bah, c'est là,
les prochaines
c'est bientôt.
Dates. Hein, oui, c'est bientôt. On va vous voir La Belle et la Bête avec vous-même,
Élodie Frégé. D'ailleurs, je suis en concert aussi là, samedi, pardon.
Ah oui, allez-y, bien sûr.
Je ne sais plus où, mais
super,
c'est dans
le 91. C'était vraiment une super annonce. C'est Élodie Frégé, c'est la personne qui est vraiment au courant de ce qu'elle fait. Et vous savez quoi, moi, vous savez ce que j'ai, moi, demain? Une émission, mais je ne sais pas avec qui. Merci beaucoup. La Belle et la Bête avec André Manoukian et son paillasson pectoral au piano, et Élodie Frégé au micro. Merci d'avoir été avec nous. Merci Clémence, merci Nicolas, merci Céline Dacosta. Nous on se retrouve demain à 9h pour Culture Média avec Thierry Tullier. On parle beaucoup de lui en ce moment, il est le directeur de l'info du groupe TF1 et Michel Bussy, le romancier, pour son livre Au soleil redouté. Je vous dis à demain, bonne journée sur Europe 1.
À demain Philippe Bondel. Dans un instant, Andrew Manoff débarque avec toute sa bande et leurs invités pour vous faire du bien. Leurs invités aujourd'hui, Az et Marie-Paul Bell sur Europe 1.